Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est l'une des figures importantes de l'épiscopat français que nous recevons ce matin, un évêque du sud de la France connu pour son zèle, entreprenant et actif au-delà de son seul diocèse, un évêque 2.0 diraient certains, n'hésitant pas à prendre son inspiration à l'étranger, persuadé que le réveil chrétien de la France ne viendra que d'un grand réveil missionnaire. Cet évêque, c'est Monseigneur Ray, évêque de Fréjus-Toulon. Monseigneur Ray, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'avoir fait un détour par les studios de Radio Présence à l'occasion de votre passage à Toulouse. Donc, on va profiter de votre présence pour aborder un certain nombre de sujets. La première chose dont je voulais parler avec vous, c'était du pape François. J'imagine que vous l'avez rencontré. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire de l'homme qu'il est ou de la relation que vous avez avec lui ?
Alors, effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer le pape François à plusieurs reprises, juste après son élection. Je me suis rendu à Rome parce que je devais y aller pour un certain nombre de rendez-vous avec les dicastères romains. J'ai profité de ses visites pour participer à une rencontre avec lui, à célébrer la messe à ses côtés, alors qu'il présidait l'Eucharistie dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. C'était un premier contact, un homme simple, d'accès particulièrement ouvert, hein, lorsqu'on s'adresse à lui, il est accueillant, il est disponible. Et voilà. Et puis j'étais très frappé par son protocole, la manière dont il a reçu les personnes à la fin de la célébration eucharistique. Donc beaucoup de convivialité, beaucoup de simplicité.
Parmi toutes les actions qu'il y a eu depuis le début de son pontificat, il y en a eu beaucoup. Je ne sais pas, est-ce que vous en retenez quelques-unes qui vous ont particulièrement marqué, que vous voudriez comme ça sortir et mettre en exergue ?
Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est chez lui le ton avec lequel il rentre en contact avec les personnes, son attitude, j'ai parlé tout à l'heure de simplicité, sa capacité à aller au-devant des personnes. Avec Benoît XVI, nous avions un pape qui était plus dans la retenue, plus beaucoup plus réservé. Là, nous avons quelqu'un qui va au-devant, donc c'est le ton, c'est l'esprit qui est le sien, qui est très frappant. Maintenant, dans les points d'orgue de son pontificat, il y a d'abord les textes qu'il a donné à l'Église, qui touche les questions écologiques, le rapport à la pauvreté, cette culture du déchet qui frappe beaucoup nos contemporains aujourd'hui. Et puis ces réflexions très pertinentes à la suite de ses prédécesseurs, de Jean-Paul II et de Benoît XVI, sur la nécessité d'une conversion non seulement écologique, mais pastorale de nos communautés, dans l'évangile de la joie. Dans la fidélité au magistère de ses prédécesseurs, il inscrit une tonalité nouvelle. Dans ces démarches, je noterai bien sûr les premières rencontres qu'il a faites aux Journées mondiales de la jeunesse au Brésil, un moment très, à mon avis, très fort, où il s'est en quelque sorte présenté à la jeunesse du monde entier qui était rassemblée à cette occasion. Et puis des démarches personnelles qu'il a fait en Lampedusa ou dans des sites marqués par la pauvreté, par l'exclusion. Il n'hésite pas d'aller, non seulement de parler des périphéries existentielles, mais lui-même de s'y rendre. Et ça, je crois que c'est très important, je dirais, dans l'image qu'on a de la papauté, du souverain pontife. Ça a changé, je dirais, la manière dont le monde médiatique, mais pas simplement, le peuple en général, le peuple chrétien et les gens, même qui sont étrangers à la foi chrétienne, peuvent comprendre, saisir, à travers toutes ces démarches, la volonté d'un homme d'être accessible, de rejoindre les plus petits, les plus pauvres. Voilà.
Alors, on y reviendra à la mission, mais c'est vrai qu'il a commencé son pontificat donc avec cette exhortation apostolique que vous avez citée, la joie de l'Évangile. Vous êtes connu en France pour être un évêque, presque l'évêque de la mission, en tout cas très, très, très ardent. Quant à la mission, vous avez dû être heureux de cette première exhortation apostolique. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que le texte, déjà, ça fait un certain temps qu'il est sorti, et puis, comme les textes se succèdent, on a peut-être perdu de vue ce premier axe lancé par le pape François?
Oui, alors effectivement, là aussi, le pape François souligne, me semble-t-il, dans tout ce qu'il a écrit, les accents qui doivent être mis en valeur dans une pastorale. Quand on regarde le Christ, on voit qu'il s'est adressé à plusieurs publics. Et alors, le public, la première réalité qu'il a investie, c'est la famille. Il est venu évangéliser la famille de Nazareth. Il a aussi eu une attention particulière aux enfants, il les bénissait, il les montrait en exemple, il s'est intéressé particulièrement à former des personnes qui sont des disciples, qui deviendront ensuite des apôtres, ceux qui poursuivront l'œuvre que le Christ a entreprise. Et puis, bien sûr, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, le souci des plus pauvres. Et quand on regarde l'ensemble des textes du pape François, on voit que ces quatre publics que je viens rapidement de citer, qui sont les quatre priorités, les quatre chantiers pastoraux du Christ, la famille, l'enfance, les nouvelles générations, la formation des leaders, on pourrait dire des responsables, et le souci prioritaire des pauvres forment forme l'ensemble des discours qu'il a et des grandes déclarations et des grandes attentions qui ont été les siennes dans ce pontificat. Il a parlé de la famille à Maurice Laetitia, il a parlé de l'évangélisation et en particulier de la transformation missionnaire que devaient connaître les responsables pastoraux, les prêtres, les évêques, dans l'évangile de la joie. Il a lancé l'année de la miséricorde avec la bulle d'indiction et le texte final Misericordiae Misera, qui s'attache à porter, signifier le souci pour les plus pauvres. Il va bientôt lancer, ça a été déclaré, ça va se mettre en œuvre, le synode pour la jeunesse, l'évangélisation du monde des jeunes, l'appel vocationnel, dans quelques années, et cet événement aura lieu au Panama. Et donc les grands textes qui sortent du cœur, de l'esprit de François, finalement s'inspirent de ce que le Christ lui-même a entrepris au début de son ministère public. Donc il y a une continuité, non seulement avec les prédécesseurs, mais immédiat, mais aussi profondément, une relecture de l'Évangile et de la mission. Donc je dirais la mission, on la retrouve pas simplement dans le texte « La joie de l'Évangile », mais aussi dans les préoccupations, les soucis que porte le pape de voir cette mission éclater à travers la miséricorde, à travers la formation des responsables, à travers l'évangélisation des jeunes, mais aussi le soutien à la famille.
Alors malgré tout, c'est parfois un pape qui est mal compris de certains chrétiens. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui parfois ont un peu du mal avec le pape François parce qu'il bouscule, alors on y reviendra, ou on peut en parler dès maintenant, mais son obsession pour certains de la crise migratoire et de la nécessité d'accueillir ces migrants, le fait qu'il soit revenu, d'un de ses voyages avec des musulmans dans l'avion. Enfin voilà, il y a un certain nombre de sujets que vous connaissez évidemment aussi bien que moi, voire beaucoup mieux, et qui crispent une partie des chrétiens. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur ces sujets?
Il me semble que la posture qu'a pris le pape François, et à travers des gestes, à travers aussi des phrases, parfois sont tirées de leur contexte, et on peut faire dire beaucoup de choses au pape, mais il porte un souci pastoral, il porte un souci de manifester la tendresse, la proximité de l'Église. Mais ces attitudes-là, ces postures-là, sont toujours à mettre en relation avec, je dirais, la fidélité au magistère, et ce qu'il dit s'inscrit en continuité avec ses prédécesseurs. Et donc notre travail, qui est celui d'un pasteur dans un diocèse, d'un prêtre, c'est tout en gardant cette ligne directrice qui nous est donnée par la tradition de l'Église. L'Église n'a pas inventé un autre discours, il doit le recevoir de l'Évangile et de la tradition de l'Église. De pouvoir resituer ces postures, ces attitudes, ces phrases qui sont relevées par les journalistes dans un avion ou dans un déplacement, de pouvoir faire une synthèse très profonde et unifiante pour montrer qu'il y a à la fois une continuité, mais en même temps une nouveauté, je dirais, dans la manière dont, avec des accents particuliers, l'Église doit aussi aujourd'hui porter le souci missionnaire. Je prends l'exemple, par exemple, on a mis en valeur telle phrase qu'il aurait dite par rapport à des musulmans, il fallait accueillir Dixit, tout le monde, etc. On sait très bien que l'Église catholique, dans son enseignement, dans le compendium, le résumé en quelque sorte de la doctrine sociale de l'Église, donne toute légitimité aux gouvernants pour avoir une politique qui soit à la fois d'accueil des immigrants, mais en même temps compatible avec les capacités d'accueil des États. Et il faut bien prendre en compte aussi la différence entre mettre en place des règles durables, stables, avec des situations d'urgence où quelqu'un se noie à nos côtés, on ne va pas lui demander ses papiers, sa religion, bon, il faut l'accueillir comme tel. Mais le pape ensuite, d'ailleurs, a légitimé dans une déclaration, quelque temps après, cette phrase qui avait été tirée de son contexte, qui avait été prise à l'occasion d'un déplacement dans un pays étranger, cette phrase sur la grande ouverture qu'on devait avoir par rapport à l'accueil des migrants, il a redit la nécessité d'une politique migratoire. Donc, je crois que notre travail, c'est toujours de faire la synthèse entre des petites phrases qu'on relève, des postures du pape qui est très pasteur, qui est très proche des gens, de les relire, de les transcrire, de les réassumer en continuité avec l'enseignement, la tradition de l'Église. C'est vrai que ça nous oblige par rapport à un discours qui était très en surplomb, hein, très magistériel, de resituer la parole, la présence du pape d'une autre manière de ce point de vue.
Juste peut-être un dernier mot sur la crise migratoire. Vous, on a pu lire un certain nombre de déclarations que vous avez faites à l'occasion de cette crise migratoire. Je ne sais pas comment vous avez reçu l'appel du pape François quand il a lancé cet appel. Donc, est-ce que chaque paroisse, chaque communauté, chaque sanctuaire accueille une famille de migrants? Alors bon, c'est ça qui a fait un peu grincer les dents. En même temps, ça a fait bouger les lignes. Je ne sais pas, vous, comment vous avez pris cet appel, trouvé cet équilibre que vous venez de décrire.
On a relayé bien sûr l'appel du pape, mais je dirais que c'est un appel qui doit être continu pour nous, d'accueillir l'autre avec son altérité, avec sa différence, c'est un appel continu qui s'adresse à nous en tant que chrétiens. On ne peut pas se désintéresser du monde, on doit aider des personnes qui sont à notre porte, qui sont dans la difficulté, dans un regard d'amour et d'espérance, de les aider, de les conforter. Et maintenant, il faut aussi conjuguer cet appel avec les capacités d'une communauté à ne pas être déstabilisée, à avoir, se donner les moyens aussi, toute communauté n'a pas toujours les moyens, de pouvoir vivre sereinement cet accueil. Donc il y a des points d'équilibre. Le pape lance un appel qui doit retentir, qui relaie finalement l'appel du Christ lui-même d'accueillir l'étranger, hein, de relayer cet appel, et en même temps de voir comment, de quelle manière, notre responsabilité, on peut, sans déstabiliser une communauté, accueillir ces personnes. Mais c'est ce qui, à l'échelle d'une communauté, se trouve aussi à l'échelle d'une nation. Hein. Comment pouvoir accueillir des personnes? Nos frontières ne sont pas étanches. On a besoin de frontières pour sauvegarder une identité, mais cette identité n'est pas le repli sur soi, n'est pas le communautarisme. Et les frontières ont toujours été poreuses, à des apports extérieurs, et dans un monde de plus en plus tourné vers la mondialisation, où les communications sont très rapides de nation à l'autre, où les problèmes des uns arrivent sur les territoires des autres, on ne peut pas ne pas se situer dans ce contexte-là, et en même temps, voir la manière dont on peut, à quel niveau, accueillir ces personnes pour pouvoir conjuguer accueil et stabilité en même temps. Et c'est un point d'équilibre délicat.
Alors avant qu'on fasse une première pause, j'avais une dernière question sur le pape François. On a coutume de dire que le pape, parfois on dit que le pape est plus aimé, c'est évidemment une boutade, plus aimé en dehors de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église. En tout cas, c'est un pape qui séduit largement, orthodoxe, protestant, juif, et puis même, on va dire, non-croyant. Vous, qui êtes un évêque particulièrement missionnaire, et on imagine en contact avec ces différentes communautés ou réalités que je viens de citer, est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples qui soulignent la popularité du pape François en dehors de l'Église ?
C'est très, très intéressant d'écouter. Par exemple, je suis très ami avec un pasteur évangélique qui est très connu, qui s'appelle Rick Warren.
Pasteur américain
qui a lancé une très grande communauté qui s'appelle Saddleback, qui se trouve à Saddleback, à côté de Los Angeles. Et c'est un homme qui est très ouvert au dialogue interreligieux et œcuménique, et en particulier avec les catholiques. Et il a de très bonnes relations avec l'évêque local. Et donc, à plusieurs reprises, il m'a dit son admiration pour le pape François. On a vu des photos lorsque cardinal Bergoglio recevait la prière des pasteurs qui étaient réunis autour de lui. On voyait le cardinal Bergoglio, futur pape François, à genoux et priant sur lui et un certain nombre de pasteurs évangéliques. Donc c'est quelqu'un qui, auprès d'un certain nombre de communautés ecclésiales non catholiques, est très bien apprécié par sa liberté, par sa simplicité, par son souci missionnaire et son souci des plus pauvres.
Et en dehors peut-être des communautés chrétiennes, est-ce qu'il vous arrivait justement de faire des rencontres qui vous ont donné à voir cette popularité
On a entendu récemment des hommes politiques se réclamer en France un attachement au pape François, le citant en référence et en modèle. Donc il suffit d'ouvrir les yeux et de voir un peu dans la société civile la manière dont le pape est apprécié, reconnu, pour dire que c'est une personnalité qui permet de faire retentir l'évangile au-delà de nos propres frontières visibles.
Alors on va faire une première pause et puis évidemment vous restez avec nous, Monseigneur Ray, et on va parler mission.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Me.
Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, donc, cette émission avec Monseigneur Ray, l'évêque de la mission, Monseigneur Ray, évêque de Fréjus-Toulon, qui nous fait l'amitié de passer par les studios de Radio Présence. Alors, on va parler avec vous mission. Donc, je disais en introduction, vous êtes connu pour être un évêque particulièrement missionnaire ou attaché à la mission en France. Et je voulais avec vous revenir sur un événement qui a eu lieu donc pour la deuxième année consécutive, à cet automne à Paris, qui s'appelle le Congrès Mission. Alors, il n'y a pas eu des dizaines de milliers de personnes, mais c'était un événement malgré tout qui monte, une réalité d'église qui monte, et conjointe donc avec un mouvement qui s'appelle Annuncio, dont vous nous parlerez peut-être, avec la communauté de l'Emmanuel, les parcours Alpha, etc. Toujours est-il que c'est symptomatique peut-être d'un réveil missionnaire. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots de ce congrès et à votre avis de son importance ?
Alors, ce congrès a eu lieu à Paris et effectivement animé par un certain nombre de réalités ecclésiales qui sont particulièrement tournées vers la mission avec plusieurs angles de vue. Il y a la dimension éducative de la mission, la formation des jeunes à la mission, l'aspect également qui était mis en valeur au cours de ces journées. C'était la dimension anthropologique de la construction humaine, la masculinité en particulier. Bon, donc, il y a un certain nombre de thèmes qui ont été traités. L'idée, c'est d'articuler des temps de prière, des moments missionnaires où on va dans la rue, on va parler aux gens, des moments de réflexion, de partage, de témoignage et d'approfondissement, avec des tables rondes aussi où ont participé des personnes qui, à des titres divers, au niveau de la philosophie, au niveau des médias, sont des personnes impliquées dans l'évangélisation aujourd'hui. Donc on a besoin de moments forts dans lesquels on peut découvrir d'autres manières de témoigner de la foi aujourd'hui. Et donc, ce congrès, sa deuxième édition, moi-même j'avais lancé il y a quelques années le congrès Communion Évangélisation, qui était un peu dans la même veine. On a besoin d'avoir un lieu de réflexion, de synthèse, de partage, d'approfondissement, de fortification aussi dans cet élan nouveau que l'on doit porter vis-à-vis du monde. Jamais l'Église n'est autant l'Église que quand elle est missionnaire. Et l'Église, elle n'est vraiment elle-même que lorsqu'elle est au rebord du monde, hein, à la fois au cœur du monde et au rebord du monde, lorsqu'elle est conduite à partager ce qu'il a fait vivre, le message de Christ.
Vous pensez donc que ce congrès mission a de l'avenir devant lui, ou qu'il a vocation aussi à brasser plus large que des communautés nouvelles ou autres ?
La difficulté, c'est que parfois des jeunes ou des moins jeunes qui veulent lancer des initiatives missionnaires se trouvent un peu seuls, pas toujours soutenu par les structures en place. Et donc, de pouvoir se rassembler, de pouvoir se stimuler, s'enrichir dans une fécondation croisée, me paraît impérieux, pas simplement utile, mais impérieux aujourd'hui. Le christianisme est de plus en plus minoritaire, et s'il n'y a pas de lieu comme cela, eh bien, on a l'impression que nous sommes les derniers des Mohicans, qui n'ont plus rien à faire. Mais en rencontrant d'autres personnes, en étant attentif à ce que l'Esprit Saint accomplit à travers telle ou telle initiative, cela nous renforce, nous donne des idées, nous éclaire, et des liens se tissent entre toutes ces réalités pour aller de l'avant.
Alors vous allez, comment dire, pour aller de l'avant, vous allez puiser votre inspiration, j'allais dire, vous allez puiser votre inspiration à l'étranger, entre autres donc au Brésil et aux États-Unis, vous allez assez régulièrement, mais pas que. Beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas ces réalités d'église. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot peut-être de la vertu de ces voyages, et puis de ces réalités missionnaires dans les pays que je viens de citer ou d'autres ?
Alors, pour être stimulé dans la mission, d'abord il faut relire l'Évangile, parce que c'est le Christ, c'est à la fois le message et le messager. Pour être stimulé dans la mission, il convient aussi de relire l'enseignement de l'Église. Et les papes comme le pape Paul VI avec Evangelii Nunciandi, le pape Jean-Paul II, bien sûr, qui était un grand missionnaire et qui a parcouru la planète, le pape Benoît, le pape François dans l'évangile de la joie, enfin, tous les souverains pontifes, dans l'esprit, la continuité du concile, nous ont introduit à ce mouvement missionnaire, à ce souffle missionnaire qui traverse toute l'Église. Donc c'est aussi un moyen de mieux approfondir la mission, de mieux découvrir son urgence, son actualité, que de relire tous ces textes-là qui nous viennent du magistère. Mais aussi, devenir missionnaire, c'est être stimulé par la manière dont cette mission elle est portée dans d'autres contextes, alors en France, mais aussi à l'étranger. Effectivement, chaque année, je vais au Brésil, aux États-Unis, j'amène avec moi une délégation de personnes qui sont intéressées par ces questions-là. Alors, aux États-Unis, j'ai parlé de Rick Warren dans le milieu évangélique, mais on pourrait citer aussi d'autres expériences. Catholic Answers, par exemple, aux États-Unis, qui est un centre apologétique qui promeut la pensée de l'Église avec des moyens de communication. La présence chrétienne à Hollywood, c'est très intéressant de voir la manière dont, dans ces lieux extrêmement médiatiques, eh bien, les chrétiens sont présents pour, au niveau des producteurs de films, au niveau des artistes, des comédiens.
Vous avez organisé un voyage, enfin vous dites tous les ans, en tout cas il y avait eu un certain nombre d'articles dans La Croix, je crois que c'était en 2015, puisqu'il y avait une journaliste de La Croix qui était venue avec vous, donc on découvrait entre autres cette pastorale dans le monde hollywoodien.
Tout à fait, de voir des églises catholiques, des écoles aussi catholiques, à l'intérieur des églises catholiques, très intéressant de voir ce maillage entre la transmission de la foi et la célébration de la foi. Donc, voyage aux États-Unis parce qu'il y a une méthodologie, il y a une pédagogie dans un monde post-moderne qui, pour nous, est souvent très agressif. Voir comment se resituer, quelles sont les portes d'entrée dans l'univers de la post-modernité, qui est très mercantiliste, qui est très consumériste, individualiste. Et puis, l'expérience aussi qui me touche beaucoup, c'est celle du Brésil, où il y a un fourmillement, un foisonnement d'idées, d'initiatives, tous azimuts. Et on est frappé par cette foi très, très, très populaire, très vivante. Alors, des communautés comme Shalom, comme Canção Nova, etc., sont autant de lieux privilégiés. Mais aussi, le fait de contacter l'Église au contact, aux prises avec la misère dans les favelas, dans les prisons, d'aller au contact de toutes ces réalités de pauvreté, de voir comment le message de l'Église touche, rejoint les cœurs. Ce sont des expériences bouleversantes.
Est-ce que vous pouvez dire peut-être un petit mot de Canção Nova ou de Shalom pour ceux qui ne connaissent pas, l'importance ou la réalité de ces communautés?
Oui, quand on va, par exemple, la communauté Canção Nova est une communauté, Canção Nova en français c'est Chant Nouveau, a été fondée par un Salésien et qui, pour évangéliser les jeunes, est passé par la musique. Il était avec une bande de jeunes, il grattait la guitare et puis il a donné envie à une radio de faire une émission avec lui. Et donc, il a commencé à produire une émission. Et puis ensuite, c'était deux émissions. Ensuite, la radio a eu des difficultés, il l'a racheté. Ensuite, il a racheté une deuxième radio. Et ensuite, il a dit, il faut passer maintenant à la télévision. Et lorsque maintenant, on va entre Rio de Janeiro et Sao Paulo, donc sur un bassin de population de 40 millions d'habitants, eh bien, on découvre Cachoeira Paulista, qui est une petite ville, 10 000 habitants, un immense site qui peut contenir 100 000 personnes. Régulièrement, il y a des. Dans ce site, qui est un grand hall, il y a donc maintenant une communauté, il y a 500 personnes qui travaillent à plein temps pour la télévision, 50 millions de téléspectateurs, 2,5 millions de connexions Internet par mois dans ce site. Et donc, travaille, œuvre une communauté pour, à travers des événements qu'elle produit elle-même, diffuser le message du salut à travers les ondes, à travers les images. Donc c'est assez extraordinaire.
Et Shalom, peut-être, est-ce que vous pouvez...
Alors la communauté Shalom a été fondée par Moïse, qui est un ami. Moïse, qui est un laïc consacré, et c'est une communauté la plus importante en nombre au Brésil, et très présente dans... l'animation aussi d'événements, par exemple le festival Hallelujah, qui compte plus de 1 200 000 personnes qui participent à cet événement à Fortaleza, dans le nord-est du Brésil, et aussi qui est une action dans les prisons, auprès des pauvres. Je pense à une œuvre qui m'a beaucoup touché, qui consiste à à sortir des gens de la rue qui ont vécu la drogue. Il s'appelle Volta Israël, retourne à Dieu. Donc beaucoup, beaucoup d'apostolats très vivants, très insérés dans la vie de l'Église, et ces communautés ont été reconnues officiellement par Rome. Elles sont des associations de droit pontifical et très insérées dans l'animation des églises locales et dans les paroisses.
Alors après, vous revenez en France, donc peut-être qu'on parlera un peu du diocèse de Fréjus-Toulon, de ce que vous y faites. Toujours est-il que la France, enfin, vous travaillez à votre manière un réveil missionnaire de la France. Qu'est-ce que vous nous diriez, alors j'ai pas mal de questions évidemment, mais pour commencer, sur ce réveil missionnaire, voilà, on dit que la France, enfin, question dont vous avez évidemment l'habitude, on dit que la France est la fille aînée de l'Église. C'est vrai que voilà, il n'y a pas de rassemblement avec 1 million de personnes aujourd'hui en France, comme ce festival que vous venez de décrire. Je sais pas, l'urgence missionnaire, ou par quoi faut-il commencer en fait?
D'abord, il faut commencer par soi-même. Première chose, l'évangélisation commence par une transformation personnelle, remettre le Christ au centre. Pas simplement être des hommes, des femmes de conviction, mais des hommes, des femmes habités par le Christ, vivant de sa présence, de sa parole. Et puis, l'évangélisation, elle commence aussi par des communautés. Voyez comme ils s'aiment. C'est à la manière dont les communautés s'organisent dans une dynamique de dons, dans une dynamique de témoignage, par les liens très forts qui unissent les personnes les unes aux autres saints au cœur de la communauté, que un témoignage est rendu au monde. Il y a des lieux, je crois, à mon avis, qu'il faut tout à fait privilégier. D'abord la famille, c'est la première cellule de base de la société, c'est la cellule de base de l'Église, l'Église domestique. Et c'est là que se joue la construction de l'homme, de la personne humaine. C'est un lieu de transmission. C'est de transmission à la fois du savoir, de la culture, mais aussi de la foi. Donc dans la famille, il y a l'humain qui se construit, et cet humain est en solidarité profonde avec la vie spirituelle. Donc aider les familles, soutenir les familles. Et puis il y a des lieux éducatifs, les écoles, les patronages, tous les tiers-lieux éducatifs, qui sont les mouvements de jeunesse, qui sont des réalités aujourd'hui qu'il faut de plus en plus investir. Je constate un peu partout en France que naissent des écoles ou que certaines écoles retrouvent un nouvel élan missionnaire. Et là, il y a un enjeu pastoral considérable. Il faut investir dans toutes ces œuvres d'évangélisation au niveau de la jeunesse. Et je crois profondément aussi à la nécessité d'une présence chrétienne dans l'espace. Et cette présence chrétienne se vit d'abord dans les paroisses. J'écris un livre sur « Paroisse, réveillez-vous ». L'idée étant fondamentale que la paroisse, c'est un lieu qui permet à des personnes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, de pouvoir se retrouver autour d'un dénominateur commun qui est le Christ. La paroisse n'est pas simplement un lieu de desserte, n'est pas simplement mu par une pastorale d'entretien. La paroisse doit être un lieu d'où part l'évangélisation. Le pape Jean 23 parlait de la fontaine du village, un lieu d'irrigation d'évangile. Dans un espace, il y a un lieu qui est dédié à la prière. Il y a une communauté qui se rassemble pour se fortifier dans la foi, mais aussi qui doit de plus en plus aller au-devant d'hommes et de femmes qui ne pénétreront jamais dans une église. Donc, semble-t-il, la paroisse a un rôle tout à fait particulier à jouer, mais à condition qu'elle soit avec une masse critique suffisante pour pouvoir honorer ses tâches, et que ce ne soit pas simplement une pastorale de maintenance. Il suppose de redynamiser la paroisse, ça veut dire trouver une équipe d'animation avec un prêtre ou plusieurs prêtres entourés de laïcs, ça veut dire tout un travail de formation. C'est ce qu'on essaye de faire, j'essaye de faire ça à l'échelle de mon diocèse, de faire des paroisses qui aient suffisamment de possibilités, de ressources pour pouvoir dynamiser autour d'elles la communauté chrétienne et rejoindre toutes les personnes qui sont loin de la foi. Donc, ce sont des réalités finalement très classique lorsqu'on parle de la famille, lorsqu'on parle de la parole, etc. Mais les réassumer, les revitaliser de l'intérieur parce qu'on a des, on est devant des besoins fondamentaux.
Peut-être sur le réveil missionnaire de la France, qu'est-ce que vous nous diriez, vous, qui brassez large, en tout cas, et qui rencontrez beaucoup de monde? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il y a un vrai réveil missionnaire en France? Et si oui, comment vous le décririez?
On assiste à ce double phénomène, d'une part à la désertification et à la seigneurisation des communautés chrétiennes. C'est un fait indéniable. Beaucoup de paroisses sont des personnes âgées, etc. En même temps, je vois apparaître une nouvelle génération et pleine d'espérance, de jeunes familles, de jeunes extrêmement motivés. Ils sont minoritaires. Mais quand je les vois, quand je les entends, ils sont en connivence avec la culture contemporaine et capables de s'adresser à cette culture et apporter le message du salut. Il suffit d'aller aux Journées mondiales de la jeunesse, il suffit d'aller dans tel ou tel rassemblement, on a parlé du congrès Missio, un certain nombre d'expériences qui témoignent de cette vitalité de la foi qui est vécue, et c'est vraiment une source pour moi d'espérance dans l'avenir. Donc il faut soutenir ce qui est en train de naître, ce qui est en train de se développer, le soutenir, l'accompagner, car c'est à partir de là que se fera la revitalisation de notre présence chrétienne au monde.
Pour finir cette deuxième partie de l'émission, est-ce qu'il y a des exemples dans votre diocèse d'actions missionnaires que vous avez entreprises que vous voudriez particulièrement partager avec tous ceux qui nous écoutent, qui pour vous sont emblématiques de réelles priorités ou de choses qu'il est possible de faire et que parfois on n'ose pas faire?
Alors, sur le plan éducatif, j'ai accueilli cette année, par exemple, la création de 3 écoles à l'intérieur des paroisses. On était très frappé par les voyages que j'ai faits dans d'autres pays, aux États-Unis en particulier. On voit que les écoles sont au cœur des paroisses. Souvent, elles sont dissociées en France. Il y a des exceptions, mais souvent, elles sont dissociées. Là, c'est au cœur d'une paroisse. De 3 paroisses ont été créées des écoles catholiques. Et ça, j'en vois tout le bienfait. On accueille.
Est-ce que vous pouvez détailler peut-être dans ces cas-là?
On envoie bien. Par exemple, on reçoit dans ces nouveaux établissements des jeunes qui sont mis là, pas pour des raisons religieuses, mais à travers la proximité avec la paroisse, avec le prêtre ou les prêtres de la paroisse, ils sont, ces familles, en contact direct avec l'Église. Souvent, les écoles catholiques n'ont pas toujours les moyens propres de pouvoir développer une pastorale, de rejoindre toutes les personnes, tous les jeunes qui viennent, les familles. Eh bien, là, en lien avec la paroisse, une évangélisation, une pastorale se constitue, qui me semble très, très intéressante, où les paroissiens eux-mêmes s'impliquent dans l'animation de l'école. Voilà. Donc ça, c'est une expérience que je trouve intéressante. La deuxième chose, c'est qu'on a fait, au départ, on a lancé Pasteur selon mon cœur. Ça a été une initiative portée par une association, Talentéo Alpha.
Dont on a parlé pas mal à cette antenne.
Voilà. Et donc, ça s'est fait il y a plusieurs années par des prêtres qui ont été très touchés par cette réflexion sur la manière de gouverner d'une manière plus missionnaire leur communauté. Ça s'est développé à partir de notre diocèse dans la province de Marseille, l'ensemble des diocèses autour du mien. Et puis ensuite, ça s'est développé un peu partout en France, à Toulouse ou ailleurs. On arrive à une nouvelle étape qui est que ces prêtres qui ont vécu cette expérience, eh bien, se disent, mais nous, on ne veut pas simplement participer à quelques réunions, on voudrait continuellement être aidé. Donc on a mis en place ce qu'on appelle un coaching, qui a vécu à l'intérieur du diocèse, où des prêtres qui sont plus motivés, plus qualifiés aussi, qui se sont qualifiés, aident leurs confrères. Et donc chaque année, on a maintenant un rassemblement de prêtres avec les équipes pastorales, donc c'est 2 jours assez intenses, où les prêtres se retrouvent avec les laïcs pour pouvoir partager, se stimuler. Et on a des équipes aussi de coaching, de co-développement, prêtres du diocèse qui mobilisent leurs confrères. Voilà deux expériences.
Peut-être une dernière, l'évangélisation sur Internet. Est-ce que vous voudriez peut-être la citer? On a entendu parler peut-être ces derniers temps, enfin quelques-uns.
Oui, alors nous avons
une jeune association qui
effectivement accompagné, encouragé une association qui s'est constituée, qui s'appelle Light in the Dark, Lumière dans les ténèbres, et qui voudrait former des e-missionnaires, c'est-à-dire des missionnaires sur la toile qui pourraient développer une présence, une parole chrétienne, donc en s'inscrivant dans les réseaux sociaux, dans le cyberespace. Donc cette initiative s'établit à l'intérieur du domaine de la Castille, là où se trouve le séminaire diocésain. Et donc nous assistons à la montée en puissance de cette opération qui permettra de former sur place des missionnaires du numérique.
Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission avec Monseigneur Ray, l'évêque de la mission, donc évêque de Fréjus, Toulon, donc qui nous fait l'amitié de passer par les studios de Radio Présence. Alors, en cette fin d'émission, je voulais, avec votre accord, aborder quelques sujets délicats sur lesquels aussi vous, vous avez un positionnement, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas une voix singulière qui est intéressante à entendre. Le premier sujet, c'était sur la pastorale des personnes homosexuelles. Donc vous, dans votre diocèse, si je ne me trompe pas, vous accueillez l'aumônier d'un mouvement qui se développe un petit peu en France qui s'appelle Courage. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot peut-être de ce mouvement et puis pourquoi vous avez favorisé ce mouvement et ce qu'à votre avis il peut apporter à l'Église et puis à toutes ces personnes?
Alors, je crois qu'une des grosses difficultés aujourd'hui, c'est que la perte d'identité chrétienne conduit à une perte du sens aussi de l'humain. On perd le sens de Dieu, on perd le sens de l'homme. Et aujourd'hui, en particulier, la perte du sens de la masculinité. On dit souvent des pères qui n'a plus de père, n'a plus de repère. Hein. Et une société très protectrice, très enveloppante, très maternante. On attend beaucoup de sécurisation dans un monde qui paraît difficile. Et avec l'éclatement des familles, on perd aussi le contact avec la figure du père, ce qui impacte sur beaucoup de choses. Donc la première initiative qu'on a voulu prendre dans le diocèse, c'est créer une formation pour assumer cette dimension de la paternité et de la même manière offrir la possibilité à des femmes de pouvoir réfléchir sur ce que c'est qu'être mère.
Et quel lien vous faites avec la pastorale des personnes homosexuelles ?
Alors, j'y viens. Positivement, ça consistait, cette pastorale, pour nous, de favoriser la prise de conscience, la dimension paternelle, à créer des sessions qu'on appelle « camps cœur d'homme », qui sont des camps passent par des moments de prière, des moments de réflexion, de grande fraternité entre hommes, et aussi des exercices physiques. Donc on a développé cette affaire-là. Et puis petit à petit, dans ces rencontres avec des hommes, on s'est posé la question, parce que la question était vide, la présence dans l'Église, quelle pastorale développer vis-à-vis des personnes homosexuelles. Donc c'était cette réflexion sur la masculinité qui nous a conduit plus particulièrement à envisager la question de la prise en compte, la prise en charge des personnes homosexuelles, au départ des hommes, mais aussi, bien sûr, des femmes. Et on a réfléchi, et dans les voyages aux États-Unis, j'ai découvert Courage, qui est une association qui s'est développée beaucoup aux États-Unis, dans un certain nombre de pays, un peu partout dans le monde, qui offre la possibilité pour des hommes qui veulent vivre pleinement leur foi et qui se trouvent dans une situation de gérer souvent douloureusement des tendances homosexuelles, de pouvoir offrir un espace de cheminement, d'accompagnement. Voilà. Et donc, j'ai demandé au père Guiton, qui est un prêtre de mon diocèse, de suivre particulièrement ces questions-là. Et donc, on a mis en place à Toulon, mais aussi il y a à Lyon et aussi à Paris des groupes Courage qui se développent. Ça repose sur des moments, des petits groupes.
Est-ce que vous pouvez dire peut-être la spécificité de ce mouvement ? Parce qu'il y en a d'autres en France. Il y a Devenir en Christ qui est plus connu ici dans notre province.
Voilà, alors là il y a un attachement.
La particularité peut-être.
Alors, comment se déroule d'abord une rencontre ? C'est des personnes qui, sous le sceau à la fois de la liberté d'expression, en même temps de la confidence entre eux, eh bien, essayent véritablement de suivre l'enseignement de l'Église, hein, sachant qu'ils ne vivent pour certains pas encore dans ce domaine-là. Et cet enseignement de l'Église souligne que l'union entre les êtres se fait sur la base de l'altérité. Et donc, des personnes qui ne peuvent pas vivre cette dimension de l'union avec un autre sexe, qui vivent avec quelqu'un, ou ont tendance à avoir des relations qui parfois sont de l'ordre de l'addiction, avec des personnes de même sexe, puissent pouvoir se rencontrer, prier ensemble, réfléchir, mais sur la base de la fidélité, c'est cela l'originalité de Courage, sur la base de cette adhésion au magistère de l'Église. Voilà, donc on prend comme référence ce que l'Église nous demande de vivre, on voit qu'on n'arrive pas à le vivre, qu'on ne peut pas le vivre, et on demande à l'Église de nous aider, de nous accompagner sur ce chemin, en vue de pouvoir, dans une chasteté, qui est dans une continence, qui est acceptée, de pouvoir arriver à coller à cet enseignement, sachant que cet enseignement, c'est pas simplement une morale, c'est derrière tout ça une vision anthropologique, qu'on dit au vrai bonheur de l'homme.
Alors, on me dit dans le casque, en fait, qu'il nous reste moins de temps que prévu, donc il y a quand même un autre sujet sur lequel je voulais avoir profiter de votre passage pour avoir non pas votre avis, mais la manière dont vous l'envisagez, c'est Amoris Laetitia. Donc Amoris Laetitia, qui est donc cette exhortation apostolique qui fait suite donc au synode de la famille, on a beaucoup parlé à cette antenne, qui fait couler beaucoup d'encre, qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions, puisqu'il y a même eu des cardinaux récemment qui ont écrit au pape François pour demander des éclaircissements. Vous, Monseigneur Ray, comment vous avez lu Amoris Laetitia et qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens qui nous écoutent sur ce sujet?
Eh bien, moi, c'est fondamental de relire les documents. C'est une, une herméneutique, c'est-à-dire une grille d'interprétation des documents de l'Église. Ils s'inscrivent, on doit les lire toujours, ils s'inscrivent dans une fidélité à un magistère qui nous est antérieur. Donc il ne s'agit pas d'opposer familiaris consortio, la théologie du corps, à ce que peut écrire le pape François. Il faut reprendre ce que nous dit le pape dans Amoris Laetitia, dans ce souci d'inscrire les attitudes, les postures qu'elle insiste le pape dans une fidélité à ce que nous avons reçu de la tradition vivante de l'Église. Et donc, personnellement, j'ai rédigé un texte sur les orientations pastorales dans la suite d'Amoris Laetitia qui sont à disposition de tous les prêtres de mon diocèse et tous les laïcs aussi. Et donc ce texte va officiellement paraître à l'occasion de la présentation des vœux des diocésains à l'évêque, donc au début du mois de janvier. Donc le pape insiste sur des attitudes d'accompagner, d'intégrer, d'aider un cheminement des personnes, de faire en sorte que personne ne se sente exclu de l'Église, mais en ayant comme ligne de mire ce qui définit le mariage chrétien, l'union d'un homme, d'une femme, dans cette ouverture à la vie, dans cette fidélité. C'est ça qui est l'enseignement traditionnel de l'Église. Seulement on s'aperçoit qu'en France, mais pas seulement en France, dans le monde entier, ben, il y a beaucoup de familles qui sont fracturées, de décomposition de la cellule familiale, de personnes qui accompagnent des enfants, des remariages, divorcés, remariés, etc. Et donc tout cela est à prendre en compte. Nous ne sommes pas dans un monde idéal, nous tendons ensemble vers... ce que nous propose l'Évangile, mais on ne peut pas y arriver tout seul. On a besoin, je dirais, non seulement d'avoir la ligne directrice, mais aussi l'accompagnement au quotidien. Et c'est ce que nous devons offrir aux communautés chrétiennes. C'est dans ce sens que, je dirais, je lis Amoris Laetitia et que je voudrais qu'elle soit mise en pratique dans mon diocèse. Chacun ne va pas réinventer une ligne pastorale. Je donne une ligne commune et dans cette ligne commune, trouver les gestes qui conviennent.
Eh ben merci beaucoup, Monseigneur Ray, d'être venu ce matin dans les studios de Radio Présence donc pour cette émission. Monseigneur Ray, donc évêque de Fréjus-Toulon, cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.